Avant match. Voici François Paquette.
Salut François, comment ça va?
Bien, Dan, j'aime bien ta question.
Caroline. Hey, là, Will, ça fait deux fois que Will, il me dit, là, François est en ligne. Ouais, je sais, mais là, c'est parce que je vais aller au bout de mon idée, là. Désolé pour le retard.
Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, puis écoute, ça pourrait faire l'objet d'une thèse, tu sais, tout ce qui est Québec, Montréal, hockey, puis tout ça, mais tu sais, j'ai trouvé ça quand même intéressant ce que tu mentionnais, parce que j'ai pataugé un petit peu là-dedans à l'époque de CHRC, CKC, puis tu sais, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Mais tu parlais de Pierre Trudel. Moi, il est beaucoup moins actif aujourd'hui, là, mais à une certaine époque, c'était une des voix les plus connues. Oui. C'était un des gars qui aimait beaucoup poser des questions un petit peu plus difficiles à ses invités. Puis c'est un gars qui, par la suite, a analysé, entre autres, ce qui se faisait à la télévision et à la radio dans le monde du sport. Puis j'avais trouvé ça fort intéressant. Mais c'est un monsieur qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui dans le monde du sport.
Là. Exact. Puis tu sais, à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui me croisent, encore hier midi, j'arrive à la station, il y a un auditeur qui était venu chercher un prix, puis il me dit, « Ouais, Dan, pourquoi tu n'aimes pas le Canadien? Hein? » Et là, j'ai dit, « C'est pas vrai que j'aime pas le Canadien. » Sauf qu'à tout le temps, surveiller ce que les médias de Montréal font à l'endroit de leur équipe préférée, c'est rendu que je passe pour un anti-Canadien. J'ai rien contre le Canadien comme tel, j'ai rien contre les joueurs. Pourquoi moi, comme intervenant de sport dans la province de Québec, pourquoi je souhaiterais que Gallagher, Mike Riley puis Philippe Danault jouent un match de hockey puis ils perdent parce qu'ils ont un chandail sur le dos qui est le même chandail que portaient Mike McPhee, Brian Scrodlund puis Guy Carbonneau à l'époque où ils passaient le gun en face de Peter Stachny, mon idole d'enfance. Ça fait pas de sens.
Non, non. Puis écoute, ces deux époques sont très différentes, mais ça me fait dire une chose. De un, je pense que les gens qui se promènent un peu entre Québec puis Montréal, tu te rends compte assez rapidement que je pense qu'à Montréal, en toute honnêteté, on se fiche éperdument de ce qui se passe à Québec puis de ce que les gens ont à dire. Mais le jour, puis écoute, là, j'entends les gens déjà dire qu'on sait pas si ce jour-là va arriver, mais le jour où les Nordiques vont revenir, oui. Moi, je pense que la rivalité va redevenir aussi intense qu'à une certaine époque, mais va être encore plus malsaine qu'elle l'était en raison de réseaux sociaux puis tout ce qui est aujourd'hui, là. Écoute, un Canadien nordique, les gens qui sont un petit peu plus vieux à l'époque, c'était quand même très intense, mais ça restait que c'était au party de Noël, autour de la cruche à eau au bureau puis des choses comme ça. Mais le jour où les Nordiques reviennent avec ce qui se passe dans le monde, avec les réseaux sociaux puis la façon dont les gens se comportent, je suis pas sûr que ça va être très, très civilisé. Je sais pas comment ça va se dresser à un moment donné, dire est-ce que la guerre va reprendre Québec-Montréal à la radio, à la télé, sur la patinoire, un petit peu partout, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a plus, c'est plus les mêmes guerriers qui sont là qu'à une certaine époque, mais je pense que ça serait quand même assez intense comme rivalité le jour où ça va se produire.
OK. François, pour faire un lien avec la soirée d'intronisation d'hier à Toronto pour le Temple de la Renommée, voici, pour employer l'expression des gens de Radio-Canada, voici la question qui tue. Et là, il faut que tu te rappelles tes bonnes années à l'école secondaire.
Ouais.
Il faut que tu écoutes attentivement la question du professeur. La question débute par « à leur prime ». Et ça, c'est très important dans la question, OK? « À leur prime de carrière, qui choisis-tu entre Brad Richards, Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier? »
C'est une très, 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 très bonne question, mais ma réponse, à leur prime, moi, je prends Brad Richards, l'homme des grandes occasions. Écoute, Brad Richards, c'est non seulement une très belle carrière junior, ça avait été le leader à l'époque avec l'Océanique, c'était la Coupe de 2000 que ça avait gagné à Halifax. Puis dans les grands moments, moi, j'ai toujours trouvé que Brad Richards était le joueur le plus complet.
Oui.
Je pense pas que statistiquement parlant, tu sais, je pense que les trois, ça se ressemble, même que Lecavalier et Saint-Louis doivent avoir plus de points que lui. Mais à leur prime, dans les belles années, dans les moments importants, je pense que je vais prendre Brad Richards parce qu'il n'y a pas grand-chose que ce gars-là ne pouvait pas faire sur une patinoire. Je pense que c'est une espèce de leader né, de gars qui n'a pas besoin de crier d'une chambre, puis d'ailleurs qui ne devait pas crier très fort dans une chambre, mais qui était capable de tout faire sur une glace. Je pense qu'entre les trois, je prends Richards, mais on s'entend, Dan, que c'est un museau d'avance. Là, c'est très serré au photo finish, mais je pense que je prendrais Brad Richards.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis par contre, j'ajouterais que J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, là, j'ai pas regardé les statistiques, j'ai pas ça devant moi. J'ai l'impression que les carrières de Richards et Lecavalier ont pogné dans le vent plus vite que celle de Martin Saint-Louis.
Oui, bien écoute, c'est différent dans le. C'est sûr que le cavalier.
Il me semble que ça a fini abruptement. Mais il me semble qu'ils sont devenus rapidement des gars de troisième trio, alors que Martin Saint-Louis, sans dire qu'il a étiré sa carrière, il a été bon jusqu'à la fin.
Oui, puis écoute, Saint-Louis, quand il est arrivé à New York, évidemment, les gens vont se rappeler que Martin Saint-Louis, à un moment donné, avait été laissé de côté par l'équipe canadienne, puis Steve Yzerman était le DG de cette équipe-là. Ça a fait un froid à Tampa, on l'a échangé à New York. Puis Martin Saint-Louis racontait, il y avait un reportage cette semaine à TSN où il disait, tu sais, il pense qu'il aurait été encore capable de jouer deux ou trois autres années, mais là, c'est vraiment la famille qui a pris le dessus. D'ailleurs, il avait été échangé à New York parce qu'il se rapprochait, je pense que c'était du Connecticut ou ce coin-là. Il était plus près de sa famille, puis je pense que ça a été une décision très, très, très importante à prendre, puis qu'il l'a pris au bon moment avant qu'il soit sur le déclin, même s'il avait quand même un petit peu ralenti. Brad Richards, à la fin aussi, avait ralenti énormément, mais Vincent Lecavalier a, tu sais, ce que les deux autres n'ont pas, c'est que tu as l'étiquette de premier choix overall, qui avait même été comparé à Michael Jordan par le propriétaire du Lightning à l'époque. Donc, je pense que là, c'est très différent. Puis l'autre chose, le problème avec le cavalier, c'est que son contrat est devenu, à un moment donné, un boulet. Puis, tu sais, dans ce temps-là, puis, tu sais, la façon dont ça s'était déroulé, on se disait, voyons, comment ça, le Lightning était si pressé que ça de le laisser partir. Puis finalement, c'est les Flyers qui l'avaient signé, si ma mémoire est bonne. Ça n'avait pas été un grand succès. Je pense qu'on s'était rendu compte très rapidement que le cavalier était rendu peut-être pas au bout du rouleau, mais pas loin. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que, dans le cas de le cavalier, peut-être un petit peu plus tôt qu'il aurait voulu, il a vraiment commencé à piquer du nez. Mais dans le cas de Saint-Louis, je pense que c'est vraiment dans les trois celui qui a réussi à se retirer au bon moment.
Oui.
Puis tu te rappelles pas, en tout cas, les dernières années avec les Rangers, Saint-Louis était moins bon, mais c'était pas devenu un boulet, mais pas du tout pour l'organisation. C'était encore un très bon joueur. Puis juste avec son flair offensif et son intensité, je pense que Saint-Louis restait un bon guerrier dans cette gang-là. Mais c'est fou, par exemple, Dan, comment la fin d'une carrière d'un joueur peut t'influencer sur est-ce que ce gars-là mérite d'être au temple de la renommée. Tu sais, souvent, là, le cavalier est un bel exemple de ça parce que les 4, 5, presque 6 dernières années, il n'a pas été très bon, il n'a pas été dominant. Puis là, tu te dis, coudonc, c'est-tu vraiment un membre du temple de la renommée? Mais quand tu reprends le temps de regarder les statistiques puis de faire le tour, c'est des gars qui ont 900, qui ont 1000, qui ont 1100 points. Puis habituellement, c'est pas une garantie pour aller au temple de la renommée, mais habituellement, c'est des chiffres qui sont assez importants pour y aller. Puis j'ai hâte de voir Dan l'année prochaine parce que 2019, tu sais, on parle beaucoup de Alfredson, on parle de Mogilny. Puis il y a quelques noms qui reviennent de défenseurs aussi qui ont eu des Gonchar puis des Zubov et tout ça, mais ça semble être plus ouvert. Donc j'ai hâte de voir ces gars-là justement comme le Cavalier puis comme Richards qui vont être éligibles. Est-ce qu'ils vont recevoir le nombre de votes nécessaires pour entrer au temple de la renommée?
Au retour de la pause, je vais d'ailleurs m'entretenir avec Marc Defoy qui est sur le comité de 18 personnes qui a à voter chaque année pour savoir qui entre au temple ou pas. François, j'invite les auditeurs à nous écrire au 25-226. Je fais une petite parenthèse avec toi, mais 25-226, c'est le numéro de notre texto. Qui vous prendriez au prime de leur carrière entre Brad Richards, Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier? Concernant le gardien de but, Martin Brodeur, hier, qui est intronisé, évidemment, il mène par 140 victoires pour le plus grand nombre de victoires en carrière. Je pense que si on était 140 personnes dans un bar sportif et qu'on parlait jusqu'à minuit de Roy ou de Brodeur, on arriverait probablement à 72-68 ou 70-70 pour Roy ou pour Brodeur. Mais voici la question que j'aurais tendance à te poser ce soir. Dans ceux que toi, t'as vu garder, t'as quoi, début quarantaine comme âge?
Oui, exactement.
Bon, dans ceux que toi, t'as vu garder, si t'enlèves Brodeur et Roy, ce serait qui le meilleur?
Oh, ça, c'est une très, très bonne question. Si j'enlève, parce que, écoute, le nom qui me vient en tête présentement, c'est Curtis Joseph, qui a été très bon, mais qui était, tu sais, qui fait partie justement de ceux là, qui depuis quelques années est juste sur la clôture pour le Hall of Fame. Là. C'est un gars qui est limite, qui a eu une très belle carrière, qui a pas gagné les grands honneurs, mais qui a quand même remporté un nombre assez impressionnant de victoires. Et c'est le premier nom qui me vient en tête quand j'y pense vite. Parce
Dominique
que,
Hachek?
Ouais, ben écoute, là, je pense que tu viens de viser dans le mille, parce que j'allais dire, je pense à plein de gardiens qui ont été bons, j'en ai pas qui me viennent en tête qui sont excellents, mais je pense que oui, avec Hachek, là, tu viens de viser dans le mille. Le seul, je dirais pas le hic, mais dans le cas de Hachek, il a vraiment été dans les années où la Ligue nationale de hockey était un peu, tu sais, tournée en rond, là. On marquait pas beaucoup de buts. Le jeu défensif faisait foi de tout. Les centres de Buffalo étaient plates à mourir à voir jouer. Puis là, ensuite, il est allé à Détroit pour terminer sa carrière. Mais je pense que oui, Hachek fait partie de la crème de la crème.
Est-ce qu'il n'a pas gagné, François? François, tu me corrigeras. T'as une meilleure mémoire que moi, pardon, pour ça. Mais il n'a pas gagné 4 ou 5 trophées Vézina?
Ah oui, à une époque où, écoute, c'était le meilleur gardien au monde. Puis, tu sais, les Tchèques ont gagné une médaille d'or aussi à Nagano grâce à lui. Là, tu te rappelles comment les Tchèques fermaient le jeu en se disant ouais. « On a besoin d'un but, puis tout va bien se passer, puis Hachek a fait le travail. » Mais oui, je pense que tu as vraiment, vraiment visé dans le mille.
Parce
que tu poses la question
François.
Comme ça, puis tu envoies des bons gardiens, mais des gardiens qui font partie de la crème. Et je pense que tu sais, Hachek est pas loin de Roy et de Brodeur au niveau statistique puis au niveau trophée individuel aussi.
6 trophées Vézina, 2 fois le trophée Hart.
Wow! Hey, 2 fois le trophée Hart, ça aussi, c'est impressionnant. Là. Pour un gardien de but, faut le faire. Puis tu sais, il était chanceux parce qu'il a réussi à aller gagner la Coupe Stanley ailleurs par la suite. Mais comme je te disais, à Buffalo, à une certaine époque, là, avec Lindy Ruff comme coach, puis c'était pas un club que j'aimais beaucoup parce que, écoute, tous les matchs finissaient 2-1, mais c'était un bon club de hockey bien, bien géré qui savait comment gagner des matchs. Mais en série, il aura toujours manqué un petit quelque chose. Puis, sauf erreur, c'est à la fin des années 90 qu'ils avaient perdu contre les Stars de Dallas quand Brett Hull avait marqué avec un patin dans le demi-cercle. Mais donc, je pense que dans le cas d'Hachek, il fait partie du top 5 de la Ligue nationale.
Puis à l'époque où il aurait pu être bon, mais ils ont laissé aller Jean-Pierre Dumont, Chris Drury puis Daniel Brière.
Oh oui, ils ont pris les drôles de décisions dans cette organisation-là, mais je vais t'avouer que je recommence à les aimer parce que c'est un club qui a, tu sais, qui n'ont pas été chanceux avec la loterie, avec McDavid versus Eichel, qui, je pense, ont pris une bonne décision en congédiant Tim Murray. Puis Jason Botterill a déjà commencé à faire du bon travail, même si, tu sais, par exemple, Ryan O'Reilly va très bien à Saint-Louis. C'est une transaction qu'on se devait absolument de faire. Puis il faut faire confiance à notre jeunesse avec Eichel, avec Dalin, avec Middlestad et compagnie. Il y a encore un point d'interrogation devant le filet pour cette organisation-là, mais je pense sincèrement qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Peut-être pas à faire les séries cette année, mais je pense qu'ils seront certainement pas loin d'une place en série.
Parfait. Un gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
À bientôt. François Paquette, chroniqueur sportif à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match. C'est toujours fort intéressant. Je vous rappelle la question du jour au 25-226 par texto. C'est possible pour vous d'interagir avec nous. Au prime de leur carrière, au meilleur de leur carrière, vous prenez lequel des 3 joueurs suivants? Brad Richards, Martin Saint-Louis ou Vincent Lecavalier? Redirected, score!